Voici le quatrième épisode de ma série consacrée à l'année 1963. Au menu, le procès de l'attentat du Petit Clamart, et puis la folie Bardot, la réforme du bac et les confidences de Georges Brassens.
1963, on de la raconte sur Europe 1.
En janvier 1963, s'ouvre le procès de l'attentat du Petit Clamart. 6 mois plus tôt, à Clamart, en région parisienne, le général de Gaulle a été victime d'une tentative d'assassinat. La déesse présidentielle a reçu 14 impacts de balles. Et les auteurs de l'embuscade sont tous des membres de l'OAS, âgés de 21 à 36 ans.
La cour militaire siège à Vincennes, dans une petite salle au rez-de-chaussée du Fort Neuf. Le prétoire est éclairé par des tubes luminescents qui donnent une lumière blanche et terne. Il n'y a pas de fenêtre et l'atmosphère n'est pas celle d'une cour d'assises, noble et solennelle, mais bien plutôt celle oppressante et contraignante d'un tribunal révolutionnaire. Les arrêts que cette cour rendra seront sans appel.
Le jury est exclusivement composé de militaires. Face à eux, une quinzaine d'avocats, dont le médiatique avocat d'extrême droite, Jean-Louis Texier-Vignancourt. Et dès le début de l'audience, la défense multiplie les esclandres.
La composition de votre cour militaire de justice n'est pas valable. Nous réclamons la possibilité de nous pourvoir en cassation. La procédure est nulle. La défense des conjurés du Petit Clamart dès le début du procès fait feu de tout bois. Tout est prétexte à incident et à conclusion, conclusions qui sont toutes repoussées. Cette cour militaire de justice est un tribunal d'exception créé par ordonnance du 1er juin 1962.
L'argument de la défense est le suivant. Les accusés ont été poursuivis par un juge ordinaire. C'est donc une cour ordinaire qui doit les juger. C'est-à-dire une cour d'assises, avec un jury populaire.
La vérité est que la défense a réussi d'abord à gagner une nouvelle journée et deuxièmement à plonger le tribunal dans un véritable imbroglio judiciaire qui laisse présager quelques séances encore bien touffues.
Le deuxième jour du procès, le chef du commando, le polytechnicien Bastien Thiry, conteste les faits dont on l'accuse.
On nous accuse d'avoir voulu le tuer, or nous ne voulions que le mettre en état d'arrestation. Si nous avions voulu le tuer, nous aurions pu le faire, et cela plusieurs fois. Il serait déjà mort à l'heure qu'il est, et même plusieurs fois mort. Si l'instruction s'était déroulée normalement, on se serait aperçu que nous ne voulions pas le tuer, que nous ne voulions pas tuer de Gaulle, mais seulement l'arrêter, conformément à ce que nous estimons être une loi. L'audience, toutefois, et sans nul doute sur le même ton, reprendra demain à 9h30. Ici, Julien Besançon qui vous a parlé du fort de Vincennes, Europe numéro 1.
Au cours des audiences, les avocats du commando font aussi de la politique.
Nous avons entendu 8 témoins de la défense. 5 d'entre eux étaient des Français d'Afrique du Nord qui ont décrit à la cour les scènes de violence auxquelles ils ont assisté en Algérie. Ces témoignages, disent les avocats, sont importants car ce procès est directement lié à la guerre d'Algérie. Le président hausse les épaules, il ne semble pas d'accord, mais il laisse tout de même parler les témoins.
Les témoins cités par la défense dressent le portrait des membres du commando. Et ils décrivent des militaires valeureux.
Un ingénieur en chef de l'armée de l'air, M. Colombani, a dit de Bastien Thiry, c'est un technicien de valeur. Un autre témoin, parlant de Bougronné de la Topnée, c'est un passionné et sa raison ne contrôle pas toujours les élans de son caractère.
Vient ensuite M. Daniel-Joseph-Émile Villet, professeur de droit. Il commence en enflant la voix. Les accusés ont pris une décision qui les honore. De Gaulle a trahi. On a bien acquitté les ventes putes à Liège. Le procureur lève les bras au ciel, dit quelques mots, mais le témoin crie. Il se rassied. Le professeur Villet, je continue. Les mobiles de leur acte sont respectables. Le procureur, c'est une plaidoirie. Non, non, non. Un avocat, oui, oui, oui. Le professeur Villet, la Constitution, et il continue sans entendre ce qui se dit derrière lui. Le procureur, rouge de colère. Non, quittez la barre, vous n'êtes pas ici pour faire une déclaration politique. Le témoin, De Gaulle, la Constitution, et il continue. Les avocats, monsieur le professeur, en droit français, existe-t-il une reconnaissance du droit à l'insurrection? Le professeur Villet, le personnage de monsieur De Gaulle, etc. Le procureur, le tribunal, la défense lèvent les bras au ciel. Le témoin termine sa phrase dans un brouhaha, remet son chapeau et quitte tranquillement le prétoire.
Les audiences sont interminables, émaillées d'incidents et de joutes verbales entre avocats et militaires. Et parfois, ça va plus loin.
Maître Richard Dupuis, avocat de Bastien Thiry, et le lieutenant-colonel Floch, adjoint de l'avocat général Gertoffer, vont se battre en duel. le bataillier Ingrand et maître Tissier-Vignancourt, témoin de maître Dupuis, recevront ce soir les témoins du lieutenant-colonel Flock. Cette décision a été prise ce matin dès la reprise de l'audience.
Vous ne rêvez pas ! Maître Dupuis, qui s'estime offensé par le militaire, propose un duel à l'ancienne.
Il reste à régler plusieurs choses, le lieu, la date et l'arme. Ce sera le sabre si maître Dupuis est reconnu comme premier offensé.
Après un mois d'audience, le procès touche à sa fin. Les premiers avocats à plaider sont ceux des exécutants. Ils demandent clémence et indulgence.
Varga, Bertin, deux jeunes gens mêlés à des événements qui les ont dépassés après avoir marqué. Voilà la ligne de défense des avocats. Varga, a dit maître Jacquet, s'est battu à 15 ans dans les rues de Budapest. À l'âge où d'autres jeunes apprennent à danser, Varga, lui, luttait pour la liberté, fusil contre char. À 16 ans, il s'est retrouvé à Paris, seul. Il a rencontré Sari, un légionnaire, un ancien Indochine et d'Algérie, un Hongrois comme lui. Comment voulez-vous qu'il puisse résister à son influence ? Pour Bertin, lui, fils d'officier et de résistant, c'est le 13 mai à Alger. À son âge, on dit ses avocats, on s'enflamme pour une idée, on la suit jusqu'au bout, sans bien peser et sa gravité et ses conséquences.
Et puis c'est au tour des avocats des chefs du commando de plaider, sachant que la peine maximale a été requise.
Messieurs, si vous condamnez ces trois hommes à mort, la guerre d'Algérie aura fait trois cadavres de plus, vous aurez fait sept orphelins, trois veuves, souvenez-vous-en. C'est par cette phrase que maître Richard Dupuis a terminé la seconde plaidoirie de l'audience de ce matin.
Après trois heures de délibéré, la cour condamne les plus jeunes à de la prison. Mais Jean-Bastien Thiry, Alain Tocnet et Jacques Prévost sont condamnés à la peine capitale pour complot contre la sûreté de l'État et tentative d'assassinat contre le président de la République.
Lorsque le verdict a été prononcé, dans la salle, un certain nombre de personnes se sont mis à crier des injures à l'égard du tribunal. On sentait que dans le fond de la salle, des parents des condamnés, à ce moment-là, protestaient. On a entendu « assassin, larbin, aucun Français n'osera tirer, n'osera les fusiller. Courage Alain », cela a été destiné à Alain Bougrenet-Latocnet. Puis les avocats, lentement, les parents, lentement, les curieux, ils étaient nombreux aujourd'hui, lentement, sont sortis dans la cour du Fort-Neuf de Vincennes, se sont dirigés vers le pont-levis et ont attendu le convoi des prisonniers.
Dans la foulée, les trois condamnés à mort sollicitent la grâce du général de Gaulle. Ils l'accordent à Tocnet et à Prévost, mais pas à Bastien Thiry, qui est fusillé un an après la fin de la guerre en Algérie, le 11 mars 1963.
Oui, Bastien Thiry repose maintenant au cimetière de Thiers, dans le carré des suppliciés. Pour lui, l'aube a été longue à venir. Il est mort à 6h40 dans un fossé du fort d'Ivry. Bastien Thiry avait été réveillé vers 5h ce matin. La présence de ses avocats, de l'avocat général et du directeur de la prison autour de lui ne lui ont plus laissé aucun doute. À 6h15, il a franchi la grille de Fresnes dans un fourgon cellulaire. Le convoi a parcouru à vive allure les 8 kilomètres qui séparent Ivry de Fresnes. À 6h35, le convoi, composé de 6 camionnettes de police, entouré de plus de 30 motards et suivi d'une dizaine de voitures, est entré dans le fort d'Ivry. À 6h40, la salle va résonner dans l'aube naissante, c'était fini. Quelques instants plus tard, le convoi repartait pour le cimetière de Thiers, où a eu lieu l'inhumation il y a juste quelques instants. L'immense service d'ordre mis en place par endroit depuis 11h30 hier soir et surtout depuis 4h ce matin est démonté. Il ne reste plus que quelques agents autour du cimetière.
Bastien Thiry est le dernier condamné à mort fusillé en France. Tous les suivants seront guillotinés.
1963, Ondelat raconte sur Europe 1.
En 1963, faire de l'autostop, c'est, paraît-il, dangereux. À tel point qu'en juillet, les actualités françaises diffusent un reportage de prévention.
Pour ces voyageurs décidés mais à la bourse plate que sont les autostoppeurs, la saison en France se révèle difficile. La presse a évoqué de sombres histoires, de malheureuses perspectives. Bref, l'autostop n'a plus la cote. On a cité le cas d'automobilistes serviables, si l'on peut dire, jusqu'au bout des ongles. Et l'excès en tout est un défaut. Nul ne sait, après tout, où commence la route de Buenos Aires. On a cité aussi le cas de braves autostoppeurs dont les bagages ont été complaisamment pris en charge et qui ne les ont jamais revus. On a cité enfin le cas d'autostoppeurs à la main trop leste, pour qui l'autostop n'était que l'alibi de sombres projets. Pour tout dire, la méfiance règne. et la concurrence n'en est que plus redoutable pour ceux qui restent, en dépit de tout, fidèles à l'autostop.
Mais ce message ne dissuade pas tout le monde. En ce début d'été 1963, beaucoup de jeunes gens privilégient ce mode de déplacement.
Dites-moi, est-ce que l'autostop ça marche? Est-ce que c'est la première fois que vous en faites?
Ah, non, personnellement, moi oui.
C'est pas la première fois, ça marche pas tellement bien, quoi. Mais étranger, ça marche beaucoup mieux.
En Allemagne, je crois, oui, ça marchera mieux.
Mais en France, ça ne marche pas.
Pas tellement.
Je crois pas, non.
Vous savez peut-être qu'il y a des associations qui demandent aux jeunes et aux jeunes filles en général de ne pas faire d'autostop.
Ah bon? Ben moi je crains pas tellement de me faire enlever, vous voyez.
Dites-moi, il y a longtemps que vous levez le pouce comme ça sur la route?
Ça fait un quart d'heure à peu près.
Ça marche pas très fort, hein. C'est la mauvaise période?
Non. C'est-à-dire que les voitures vont assez vite là. C'est une grande route, quoi.
Est-ce que vous êtes une habituée de l'autostop?
Non, c'est la première fois que j'en fais pour ce qui est.
Et vous n'avez pas peur comme ça sur la route de lever le pouce et de vous confier à n'importe qui? Vous n'avez pas eu de camarades ou d'amis qui ont eu des histoires sur la route?
Non, je connais pas.
Vous connaissez pas? Mais vous pensez que ça peut arriver?
Oh, ça peut arriver, oui.
Et rien que cette pensée, ça ne vous effraie pas?
Oh, si, un peu.
Si on exhorte les autostoppeurs à être méfiants, ceux qui prennent des gens en stop doivent l'être également. Et de ce côté-là, le message semble être mieux passé.
Est-ce que vous prenez de temps en temps des autostoppeurs?
Non, absolument jamais.
Jamais, pour quelle raison?
Pour quelle raison? Parce que, question de sécurité, on ne sait jamais à qui on a affaire. Pour en prendre, ça veut dire...
Toutes ces histoires d'attaques, de vols de portefeuille, ça vous effraie un petit peu?
Mais oui, pas, c'est ça.
Eh bien, tant pis, pas de chance, alors. Vous, par contre, vous prenez de temps en temps des autostoppeurs?
Ah oui, je prends toujours des autostoppeurs, et surtout quand c'est des filles, je m'arrête tout le temps. Et vous avez de la chance, vraiment, aujourd'hui.
Alors, vous prenez des autostoppeurs lorsque ce sont des autostoppeuses?
Des belles filles, hein. En général, des belles filles. Je les prends pour faire plaisir, et en plus, avec des filles, ça permet de parler gentiment.
Et ça ne va jamais plus loin, parce que vous savez qu'il y a des associations qui disent que, des fois, ça va un petit peu plus loin.
Alors, vraiment, vous êtes indiscret.
Cette année-là, 1963, on approche des 10 millions d'automobilistes en France. Et forcément, ça crée des tensions, particulièrement dans les villes, comme ici à Paris.
Vous avez déjà commencé par circuler un peu mieux vous-même, hein, parce que dites-donc, pour foutre la merde, vous en connaissez un bout, là, vous avez bloqué les gens qui bossent, mon pote, non?
Ça ne parlait pas,
hein? Ça m'arrange. Je pensais d'acheter une bicyclette, mais j'ai abandonné maintenant.
C'est pas drôle, hein.
Oh, c'est infernal.
Ça va mal, mon vieux, on ne peut pas se garer.
Ça va mal.
On a des contraventions. On vient de province, on ne peut pas se garer. On a une contravention.
Oui.
C'est pas drôle. Puis avec ça, j'ai ma voiture qui veut pas redémarrer, à force de rester comme ça.
C'est de plus en plus mauvais, cher ami.
Le lundi, ça va un peu mieux parce que les magasins sont pas ouverts. Mais le reste de la semaine, il y a toutes les nanas à midi et quart, au bon marché, aux galeries, tout ça. C'est fini, c'est mort. Prenez la rue Comartin, par exemple. Hein, vous pouvez aller croiser 50 000 toute la journée.
À Nice, cette fois, la municipalité a l'idée d'instaurer la semaine du piéton. Qu'est-ce? Eh bien, pendant 7 jours, des personnes habilitées vont observer les comportements des piétons dans la ville, pour ensuite les éduquer, ou plutôt les recadrer.
La prévention routière organise l'opération piéton sous le haut patronage du ministère de l'Intérieur, des Travaux publics et des Transports, avec le concours de la municipalité et de la police de Nice.
Ne traversez pas en dehors des passages pour piétons, s'il vous plaît. Vous êtes en infraction lorsque vous traversez en dehors des passages. Non, monsieur, s'il vous plaît, oui, veuillez reculer sur le trottoir. Les piétons qui tiennent leur vélo à la main lorsqu'ils marchent sont assimilés au régime des piétons et doivent obéir aux règles auxquelles sont soumises les piétons.
Excusez-moi, mademoiselle, en quoi consiste la semaine du piéton?
La semaine du piéton est une campagne d'information en faveur du piéton pour le protéger contre les accidents de la circulation.
Êtes-vous satisfaite de la réaction des piétons niçois?
Oh, tout à fait, nous sommes tout à fait satisfaites parce qu'ils sont de bonne humeur et ils prennent la chose avec assez d'optimisme.
Et en effet, tout le monde semble ravi de cette opération.
Madame, que pensez-vous de la semaine du piéton?
C'est une très bonne idée, ça évitera bien des accidents. Oh ben, je trouve que c'est très bien. Oui, parce que moi, je trouve que c'était bien.
On devrait être un peu plus sévère pour certains piétons. Si quelques-uns sont raisonnables, d'autres abusent des droits qu'on leur donne de traverser au feu rouge et autres. Et c'est une très bonne chose de façon d'éduquer les piétons.
Je pense que c'est une disposition qui est très intéressante pour tout le monde, parce qu'il est nécessaire d'éduquer les piétons, qui bien souvent s'engagent dans la rue sans faire attention, et pour les automobilistes également. Il faut quand même beaucoup de discipline, par exemple.
Ben c'est très bien, parce que dans un sens, les piétons ne regardent jamais quand il faut passer. Ils sont vraiment imprudents.
Europe 1, on de la traconte. L'année 1963.
Chanson écrite 6 ans plus tôt par un dénommé Richard Berry.
Europe 1, on de la traconte, l'année 1963.
En 1963, Brigitte Bardot est à Capri en Italie pour tourner sous la direction de Jean-Luc Godard aux côtés de Michel Piccoli, le film Le Mépris.
Tu vois mes pieds dans la glace ?
Oui.
Jolie.
Oui, très.
Et mes chevilles, tu les aimes?
Oui.
Tu les aimes, mes genoux aussi?
Oui, j'aime beaucoup tes genoux.
Et mes cuisses?
Aussi.
Mais Bébé n'a pas qu'une corde à son arc. Cette année 1963, on la croise aussi en Angleterre, où elle donne un concert dans un hôtel londonien.
Everybody loves my baby, but my baby don't love nobody but me. Nobody but me. Everybody wants my baby, but my baby don't want nobody but me. That's plain to see. I am his sweet patootie and he is my loving man. Knows how to do his duty, loves me like no other can. That's why everybody loves my baby, but my baby don't love nobody but me. Nobody but me.
Ce soir-là, les spectateurs sont globalement sous le charme de la vedette française.
Alors Brigitte Bardot, comment vous la trouvez?
Elle est très belle. Je pensais que les femmes anglaises sont jalouses un peu.
Je vais maintenant quitter la salle de télé pour recueillir dans le hall de l'hôtel les impressions des Anglais qui viennent de voir et d'écouter Brigitte.
Brigitte Bardot, je la trouve bien excitante, bien attirante.
C'est la première fois ce soir, vous l'avez entendue
oui,
chanter?
C'est la première fois, oui.
Je n'aime pas Brigitte Bardot. Elle ne joue pas bien le cinéma.
Brigitte Bardot est une très belle femme.
Je pense que la bébé est charmante. Brigitte, tout le monde l'aime. Brigitte, n'est-ce pas, elle est magnifique.
Je pense que Brigitte Bardot est excitante.
et très jolie.
Est-ce que vous avez déjà entendu Brigitte Bardot chanter avant ce soir?
Oui, je l'ai entendu dans
ça. Vous trouvez qu'elle chante bien?
Oui, assez bien, oui. Mais je crois qu'en tous les cas, on fait trop d'histoires pour elle.
J'admire beaucoup Brigitte Bardot parce que après la mort de Marilyn Monroe, je pense que c'est l'actrice numéro 1.
Après son concert londonien, Bébé est de retour à Londres pour tourner une ravissante idiote d'Edouard Molinaro avec le jeune et semi-acteur américain Anthony Perkins.
Est-ce que vous connaissez Brigitte Bardot?
Non, pas encore.
Vous ne l'avez jamais vue?
Non.
Enfin, au cinéma?
Oui.
Et qu'est-ce que vous pensez d'elle? Et quelle impression vous a-t-elle faite la première fois?
La première fois que j'ai vue dans, oui, dans un film, à cet temps, j'étais pas un acteur du cinéma. J'ai dit, mais si un jour je devrais...
Hein? Oui, si un jour je dois tourner, oui.
Non, since if I became an actor, I became a movie
si
actor.
Si je deviens un acteur de cinéma...
Oui, je voudrais bien tourner avec elle.
C'est arrivé.
C'est arrivé.
Mais pour Bébé, le tournage est loin d'être de tout repos. Tout le temps de son séjour à Londres, la vedette française est très sollicitée. Et chaque conférence de presse se transforme en foire d'empoigne.
J'ai la chance d'être introduit jusqu'auprès de Brigitte Bardot. La conférence de presse continue. Brigitte parle anglais maintenant.
Shopping in London.
What sort of things?
Oh, I don't know. There is a lot of beautiful things to buy here. Rolls Royce.
Brigitte Bardot dit qu'elle veut acheter une Rolls Royce.
Vous parlez très bien anglais, Brigitte.
Non, j'ai tout oublié. Je vais m'y remettre maintenant. Yes, always. I adore. Yes.
Brigitte Bardot dit qu'elle adore le thé et qu'elle en boit toujours.
In the morning, in the afternoon, do you?
Always. Le matin et l'après-midi.
Yeah, not coffee. And some, comment on dit que de temps en temps. Sometimes.
Time to time.
Time to time, champagne.
On attend jusqu'au photographe qui demande des autographes.
Not for you.
That's for my little girl.
Ah,
c'est pour la petite fille de ce photographe. Qu'est-ce que vous pensez du flegme britannique, Brigitte Bardot?
Mais je trouve qu'il n'y a pas tellement de flegme. Tout à l'heure, c'était plutôt le contraire.
Les conférences de presse, c'est toujours comme ça?
Eh oui.
Vous vous y habituez maintenant?
Eh non.
Pressée de toutes sortes de questions, Brigitte Bardot répond parfois sans trop réfléchir aux conséquences. Ce qui peut parfois prêter à conséquences, justement.
Rien ne va plus. Brigitte Bardot, hier, dans sa conférence de presse, avait manifesté le désir d'acheter une Rolls-Royce. C'était une boutade, mais Roots ne l'a pas compris ainsi. Roots, c'est une marque de voiture concurrente depuis le début du film. Cette firme prête gracieusement ses automobiles à la production. Comment, s'est écrié un gentleman de chez Roots, Brigitte Bardot veut acheter une Rolls-Royce, c'est inadmissible. Nous reprenons nos voitures. Ça n'a pas l'air d'être grave et pourtant ça l'est. Si Roots ne revient pas sur sa décision, tous les plans tournés jusqu'à présent avec ses automobiles devront être recommencés. La maison Rolls-Royce, elle, est ravie. Elle l'a fait savoir dans une lettre adressée à Brigitte Bardot.
Cet incident diplomatique avec la firme Roots n'est pas le seul que la production du film a à gérer. Fin octobre, lors du tournage d'une scène dans le quartier de Hampstead, il y a tellement de monde pour voir Bébé qu'il faut jeter les ponts.
Alors ce flegme britannique, Brigitte Bardot?
Qu'est-ce que c'est exactement le flegme britannique?
Vous devez le savoir mieux que moi.
Mais je crois que c'est plutôt le contraire.
Oui, comment ça s'est passé?
Mais ça ne s'est pas passé justement, on n'a rien pu faire parce que les Anglais ont été tellement déchaînés qu'on n'a pas pu tourner dans la rue à Londres. Et en plus, il y a une loi qui interdit aux policemen anglais d'empêcher la foule de s'approcher des acteurs. Ce qui fait que, comme la foule en elle-même n'a qu'une envie de s'approcher des acteurs, qu'on n'a pas le droit de les retenir, ça a été impossible, absolument impossible de tourner.
Vous avez eu peur? T'as peur qu'il vous arrive quelque chose?
Moi, la foule me fait toujours un peu peur, je dois dire. Mais là, c'était particulier.
Mais qui étaient ces gens? Des fanatiques, des fans, des photographes?
Il y avait de tout. Il y avait beaucoup de photographes. Il y avait énormément de gens de la rue, de public. Et il y avait la télévision, les actualités, enfin un tas de gens. Ce qui fait que vraiment, on était débordés, submergés complètement.
Des gens qui criaient?
Oui, les gens criaient, voulaient des autographes, voulaient me voir, me toucher, m'approcher. Enfin, c'est une expérience. Je peux pas dire que ce soit ni irritant ni désagréable. C'est une expérience qui doit arriver une fois dans une existence, puisque moi ça ne m'est jamais arrivé, même à Rome où vraiment les Italiens ont la réputation d'être terribles dans ce genre de choses. Mais...
Après ce nouvel incident, le producteur et le réalisateur décident de plier bagages et de poursuivre le tournage à Paris, dans des rues londoniennes reconstituées en studio.
Qui l'eût cru déplore la perte de l'été qui depuis s'en est allé. On a rangé les vacances dans des valises en carton et c'est triste quand on pense à la saison du soleil et des chansons. Pourtant je sais bien l'année prochaine tout refleurira, nous reviendrons. Mais en attendant, je suis en peine de quitter la mer et ma maison. Le Mistral va s'habituer à courir sans les voiliers. Et c'est dans ma chevelure ébouriffée qu'il va le plus me manquer. Le soleil, mon grand copain, ne me brûlera que de loin. Croyant que nous sommes ensemble un peu fâchés d'être tous deux séparés. Le train m'emmènera vers l'automne, retrouver la ville sous la pluie. Mon chagrin ne sera pour personne. D'été, tous les ennuis oubliés, nous reviendrons faire la fête aux crustacés de la plage ensoleillée, de la plage ensoleillée, de la plage ensoleillée.
C'était Brigitte Bardot avec la madrague du nom de sa propriété tropézienne, évidemment.
Europe 1, on de la traconte, l'année 1963.
En janvier 1963, le gouvernement annonce une grande réforme du baccalauréat. Jusque-là, l'examen se passait en deux temps. Un premier bac en fin de première, et si on l'avait, on pouvait passer le second bac en fin de terminale. Eh bien, en 63, changement de programme, le premier bac est remplacé par un examen probatoire pour évaluer le niveau du candidat. Et tout le monde ne passera pas cet examen.
Il est question d'un examen probatoire pour les élèves qui sont un peu médiocres et de dispenser du baccalauréat première partie les meilleurs. Dans la mesure où ça se réduit à cela, il me semble que c'est bon. Maintenant, évidemment, du fait même qu'on supprime l'examen, le baccalauréat pour les meilleurs élèves, la décision du jury sera entièrement déterminée par la lecture du livret. Et si le livret est excellent, l'élève sera dispensé du baccalauréat.
Pour juger un élève, est-ce qu'on peut le juger sur ses notes de la dernière année, c'est-à-dire de l'année de première, ou faut-il remonter très loin ?
Je crois qu'il faut remonter à l'année de troisième.
Est-ce que vous pensez que ces mesures nouvelles ne vont pas favoriser ce qu'on appelle les chouchous ?
Je crois que ce n'est pas vraiment un argument de poids, dans la mesure où même si un professeur favorise un élève, il n'est pas le seul professeur. Il y a une équipe de professeurs. Par conséquent, il est impossible que toute l'équipe favorise le même élève.
Mademoiselle, à la fin de cette année, vous allez passer le baccalauréat, nouvelle formule. D'abord, que pensez-vous de cette nouvelle formule ?
Je la trouve tout à fait satisfaisante parce qu'elle nous oblige à travailler toute l'année sans mettre une barrière au bout de l'année.
Est-ce que vous pensez avoir plus de chance avec cette nouvelle formule qu'avec l'ancienne ?
Oui, je pense. Oui, je pense très sincèrement.
En 1963, le ministre de l'Éducation nationale, Christian Fouché, décide aussi de changer l'organisation des épreuves du bac.
Nous ne voulons plus que les copies
ou que les jurys se réunissent systématiquement au chef-lieu de l'académie, et nous voulons que le baccalauréat puisse se passer dans chaque département, et même quand le département est important, dans chaque arrondissement. Ainsi, nous éviterons les temps morts, nous pourrons faire passer le baccalauréat même à des centaines de milliers d'étudiants en 8 ou 10 jours, et non pas en 15 jours, 3 semaines, comme nous le faisions cette année. Je souhaite vivement que la durée des épreuves écrites soit réduite de 3 jours et demi et 4 jours à 2 jours.
Et la durée même de l'épreuve est raccourcie, elle aussi. Pour certaines matières, on passe ainsi de 3 à 1 heure d'examen. Heureusement, la chanteuse Claudine Copin est là pour en encourager tout ce petit monde.
On vient m'appeler pour une partie. Désolé, je réponds, je nie. Vraiment non, je ne peux pas. Moi j'ai le bac dans un mois. Je les vois boire et danser. Ils n'ont pas le bac à potasser. Pendant que moi, tout bêtement, je parle du cerf ou du segment. Lorsque je pense à mon chenille qui est en photo là sur mon lit, je me domine et pense tout bas que j'ai le bac dans un mois.
En juin, cette chanson, le twist du bac, atteint la première place du hit parade de Salut les copains sur Europe numéro 1. Mais malgré la réforme, les chiffres du baccalauréat 1963 ne sont pas bons du tout. Ils sont en baisse par rapport à l'année précédente. Le pourcentage de reçus passe de 62,1% à 61,9%. Les recalés gardent leur bonne humeur malgré tout.
Vous avez l'air souriant, donc les notes sont bonnes ?
Non, elles sont absolument mauvaises, mais moi je suis souvent toujours décontracté, quoi. Par exemple, hier j'ai passé mon permis de conduire, je l'ai loupé, mais j'étais aussi décontracté avant qu'après. Je crois que mon tort, c'est d'être trop décontracté.
Et votre baccalauréat ?
Pareil, j'ai passé aussi décontracté et ça n'a pas marché.
Vous êtes venu protester ?
Non, pas exactement protester.
Mais essayez de grignoter quelques petits points qui vous manquaient.
Oui, très très faible, très petit point. Pour un si petit nombre de points, il me semble qu'on aurait pu me repêcher.
En 63, il est également question de réformer le calendrier scolaire. Plutôt que d'avoir cours les lundis, mardis, mercredis, vendredis et samedis, toute la journée, avec un repos le jeudi, on envisage de faire cours également le jeudi pour chômer le samedi. Il y a ceux qui sont pour.
Vous préférez le jeudi comme jour de repos ou le samedi ?
Le samedi, c'est plus intéressant parce que on peut faire des week-ends de 2 jours.
Mais vous ne vous rendez pas compte qu'en travaillant peut-être pendant 5 jours de suite, arrivé le vendredi soir, vous pourriez être très très fatigué, non ?
Si, ça.
Il y en a des jours qui sont creux. Par exemple, le vendredi après-midi, on a piscine. Alors, des fois, on n'y va pas. Et puis, comme le samedi, c'est mieux que le jeudi. Jeudi, ça coupe, mais c'est pas tellement intéressant. Une journée, on peut pas bien s'amuser.
Mais on peut se reposer quand même.
Oui, mais c'est... Et puis il y a les devoirs, alors vous savez, le repos. Oui, hein.
Et c'est le seul jour de repos des parents, samedi et dimanche. C'est pour ça, je pense que c'est beaucoup mieux le samedi.
Ça, c'était les pour. Mais il y a aussi ceux qui sont contre cette réforme.
Pourquoi le jeudi ?
Parce que nous avons un repos au milieu de la semaine, et que quand, avec le travail, c'est plus reposant d'avoir un repos au milieu de la semaine, au lieu d'avoir tout, le samedi et le dimanche, qui nous permettent de partir en week-end. Mais nous sommes fatigués le jeudi, et le mercredi, nous sommes déjà un peu fatigués, nous préférons avoir le jeudi pour nous reposer.
Alors vous êtes un sage. Vous êtes un sage aussi ?
C'est pour la même raison.
Exactement la même raison. Et alors tous les autres, là, vous êtes 25 ou 30 autour de moi, vous êtes...
Le samedi et le dimanche.
Alors attendez. Essayons d'être clairs. Pourquoi le samedi et le dimanche ?
Samedi et dimanche parce qu'on on a du temps pour aller à la campagne. On peut partir à la campagne. Et...
Mais vous ?
Ça dépend les gens qui ont une maison de campagne ou pas. Monsieur, c'est bien le samedi, mais la condition c'est qu'on n'ait pas de colle. Parce que si on supprime l'école, on préfère le jeudi, ça se jure.
Mais il faut prendre le jeudi absolument. C'est parce que c'est le samedi, c'est parce que sinon on peut aller à la campagne. Sinon on ne peut pas, c'est embêtant.
Et le travail. C'est le travail, c'est l'histoire du travail, toujours pareil.
Moi je trouve qu'on devrait avoir le samedi et le dimanche parce qu'après 5 jours de classe, on peut se reposer 2 jours.
Mais non,
parce
qu'on fait la nouba, on fait la nouba.
On fait la nouvelle. 1963. On de la raconte sur Europe 1.
We're all going on a summer holiday. No more working for a week or two. Fun and laughter on our summer holiday. No more worries for me or you for a week or two. We're going where the sun shines brightly. We're going where the sea is blue. We've seen it in the movies. Now let's see if it's true. Everybody has a summer holiday, doing things they always wanted to. So we're going on a summer holiday to make our dreams come true. The sun shines brightly. We're going where the sea is blue. We've seen it in the movies. Now let's see if it's true. Everybody has a summer holiday, doing things they always wanted to. So we're going on a summer holiday to make our dreams come true. For me and you.
C'était Cliff Richard avec Summer Holiday en 1963.
1963, on de la traconte sur Europe 1.
Au début des années 60, c'est de notoriété publique. Georges Brassens n'aime pas trop les interviews. Alors quand en décembre 63, Europe numéro 1 le sollicite, il dit oui, à condition que l'entretien se déroule chez lui, dans le 14e arrondissement de Paris. Un confort pour l'artiste, qui en oublie même qu'il est à l'antenne.
Une jolie fleur dans une peau de vache, une jolie vache déguisée en fleur, qui fait la belle et qui vous attache, puis qui vous mène par le bout du cœur.
Ben, c'est-à-dire, je fais comme ça, chaque fois que j'ai fait les paroles, je mets dessus 2, 3, 4, 5 musiques. Et je me les répète.
Oui, oui.
Et au bout de 15 jours, c'est la musique qui tient le coup, qui reste.
Oui, oui. C'est vrai que vous êtes sur l'antenne, Georges Brassens, là.
Ah ben, tant pis. Tant pis.
En fait, vous n'aimez pas du tout les émissions, hein.
Pas particulièrement, non.
Non. C'est un petit peu à contre-cœur que...
Je me laisse séduire, oui, c'est ça. Je me laisse facilement séduire. Je suis un faible.
Et Brassens a beau être sur Europe numéro 1, il avoue qu'il n'écoute jamais la radio.
Est-ce qu'il y a des piles dans votre poste transistor qui est à 2 mètres, là ?
Non, non, j'ai pas de piles, non. J'écoute jamais la radio, ah ça. Ça ne m'intéresse pas tellement. Je pense que ça n'intéresse finalement personne. Quoi.
Non, pas bien sûr. D'ailleurs, je vais vous dire quelque chose, c'est qu'on est là ensemble, on a une bonne réunion de gens qui bavardent, mais personne ne va écouter.
Vous pensez vraiment que si les gens sensés, les Français qui sont vraiment des gens très sensés, des gens qui ont beaucoup d'esprit, vous pensez que si les Français écoutaient la radio, non, c'est pas possible.
Non, sûrement.
Ils se révolteraient, ils feraient quelque chose, ils reprendraient la Bastille, les Français, s'ils écoutaient la radio.
D'ailleurs, si on dit ça, c'est qu'on sait très bien que personne ne nous écoute.
Je pense pas qu'ils vous entendent un peu de très loin, je pense pas qu'ils écoutent. Oui. Sérieusement, sinon il se tuerait tous les jours.
Donc il n'aime ni les interviews, ni la radio. Mais Brassens est pourtant bavard. Et au micro de Michel Cogoni, il aborde volontiers tout un tas de sujets. Comme son unique expérience au cinéma, 6 ans plus tôt, dans le film Porte des Lilas, tiré d'un roman de son ami René Fallet.
Je vais vous parler d'une chose qui m'a étonné, c'est que vous ayez un jour fait du cinéma.
Ah, c'est à cause de l'ignoble Fallet. Ce bougre avait écrit un livre.
La grande ceinture.
Oui, mais je savais le titre, c'était bien pas la peine de me le dire.
Non, mais il se fait
il avait écrit un livre et il m'a présenté à l'ignoble Pierre Brasseur, lequel m'a dit « J'aimerais que tu joues avec moi dans ce film. » Et bêtement, je me suis laissé séduire.
Bêtement
et voilà, bêtement.
Vous le regrettez ?
Oh non, non, je le regrette pas. Pour Fallet, surtout, je le regrette pas.
Mais pour vous, pour ce que vous avez vu, vous êtes plus à l'écran ?
Je ne suis pas vu.
Ah, vous n'êtes jamais allé voir le film ?
Jamais.
Et les Roches, vous alliez les voir ?
Hmm ?
Les Roches.
Ouais, ah, les Roches, je ne connais pas, non, j'allais pas voir ça.
Ah, bon.
Non, je peux très bien vivre sans le cinéma.
Est-ce que la chanson, de toute façon, a des avantages pour vous ? Vous m'avez dit tout à l'heure, je travaille 3 mois, Et puis,
on peut pas appeler ça du travail. Je veux dire, je passe en scène pendant 3 mois, quoi. Puis après, le reste du temps, j'essaie de faire des chansons.
Est-ce que vous recommenceriez à faire un film s'il fallait vous proposer un scénario?
Ah non, cette fois-ci, s'il venait avec son scénario, je le foutrais brutalement à la porte.
Et puis, lors de cet entretien radiophonique, Georges Brassens aborde la difficulté pour lui de se livrer.
Il faudrait qu'il n'y a pas une certaine pudeur dans les amitiés comme ça.
Ah, si, bah,
qui fait que Bertolati descend
dans. On est les gens pudiques, nous autres, oui. Et vous nous obligez à nous déshabiller là devant ce micro.
Mais est-ce que vous ne pensez pas, quand vous allez arriver à l'Olympia sur scène, vous vous déshabillerez un peu malgré
vous? Pas du tout, non. Vous ne m'avez pas bien regardé en scène. Je ne me déshabille jamais.
Est-ce que vous pensez, ou est-ce que vous ne pensez pas, quand vous arrivez sur scène, c'est un peu malgré vous que vous chantez?
Non, pas tellement, parce que je suis quand même pas contraint. Je peux m'en passer. Non, c'est pas malgré moi, mais c'est. Ah non, c'est pas malgré moi. Je chante parce que j'aime chanter, finalement, quoi.
Puis alors, vous m'avez dit, vous me permettez de le dire, vous m'avez dit, quand je suis allé vous voir pour préparer cette émission, enfin pour vous en parler, vous m'avez dit, si vous vouliez la faire, que finalement, c'était bien plus simple de les chanter vous-même et moins fatigant que de les proposer à d'autres personnes, vos chansons.
Oui, parce que, comprenez, quand je chante en public une chanson, elle leur plaît ou elle leur plaît pas. Et en général, mes chansons, elles leur plaisent pas du premier coup, il faut bien le dire. Ça n'a pas grande importance. Le temps ne fait rien à l'affaire, là, non plus. Mais quand vous allez chanter une chanson à un interprète quelconque, c'est chaque fois un examen très pénible, quoi.
Plus pénible que le public?
Oui, parce que le public, finalement, ne vous dit rien. Il vous applaudit ou ne vous applaudit pas, mais enfin, il vous dit rien, sauf si vous siffle et si vous vire. Mais enfin, ça m'est pas arrivé très souvent.
Ça vous est arrivé, déjà?
Ça m'est arrivé à mes débuts, mais enfin, ça m'est pas arrivé très souvent, quoi.
En cette année 63, Brassens n'est plus jamais sifflé. Ou alors ce sont des sifflets d'admiration. Lors de son premier soir à Bobino, la salle qu'il a vue naître, le public est au son.
Musicorama, ce soir, est en fête. Il fête le retour, sinon de l'enfant prodigue, du moins d'un de ses amis les plus chers dont nous étions séparés depuis longtemps, trop longtemps. Nous allons assister ensemble à la rentrée de Georges Brassens à Bobino. Il y a ce soir dans la salle communale l'aigresse mêlée de soulagement à se dire « Il est revenu et il va chanter ». C'est vrai, il est là et bien là. Et il chante, mes amis, pour l'instant, il est accueilli par une véritable ovation.
J'en appelle à la mort, je l'attends sans frayeur. Je ne tiens plus à la vie, je cherche un fossoyeur qui aurait une tombe à vendre à n'importe quel prix. J'ai surpris ma maîtresse au bras de son mari. Ma maîtresse, la traîtresse. Je croyais tenir l'amour au bout de mon harpon. Mon petit drapeau flottait sur le cœur de Madame Dupont. Mais tout est consommé. Hier soir, au coin d'un bois, j'ai surpris ma maîtresse avec son mari poids. Ma maîtresse, la traîtresse.
Brassens chante à Bobino 20 jours d'affilée et tous les soirs, il fait salle comble et il retrouve même la ferveur de ses débuts.
Par les hommes décriés, par les dieux contrariés, la noce continue et vive la mariée.
On a beau être le prince de la chanson française, on a beau compter parmi les poètes contemporains les mieux prisés, on a beau avoir été choisi comme sujet de thèse en Sorbonne, n'empêche que lorsqu'on retrouve ses amis après une longue absence, le cœur bat fort. Ce soir, une fois de plus, Georges Brassens, notre cœur à nous aussi a battu à l'unisson du vôtre. Restez longtemps parmi nous. Ici, dans la salle, les gens applaudissent et semblent ne pas vouloir s'en aller. Eh bien, il suffira de revenir demain. Et voilà tout.
Je
vivais à l'écart de la place publique, serein, contemplatif, ténébreux, bucolique, refusant d'acquitter la rançon de la gloire sur mon brin de laurier. Je dormais comme un loir, les gens de bon conseil ont su me faire comprendre qu'à l'homme de la rue, j'avais des comptes à rendre, et que sous peine de choir, dans un oubli complet, je devais mettre au grand jour tous mes petits secrets. Trompette de la renommée, vous êtes bien mal embouchée, manquant à la pudeur la plus élémentaire, dois-je pour les besoins de la cause publicitaire divulguer avec qui et dans quelle position je plonge dans le stupre et la fornication? Si je publie des noms, combien de Pénélopes passeront illico pour de fiefées salopes? Combien de bons amis me regarderont de travers? Combien je recevrai de coups de revolver? Trompette de la renommée, vous êtes bien mal embouchée. À toute exhibition, ma nature est rétive, souffrant d'une modestie quasiment maladive, je ne fais voir mes organes procréateurs à personne excepté mes femmes et mes docteurs. Dois-je pour défrayer la chronique des scandales battre le tambour avec mes parties génitales? Dois-je les arborer plus ostensiblement comme un enfant de cœur porte un saint sacrement? Trompette de la renommée, êtes bien mal embouché.
C'était Georges Brassens avec les Trompettes de la Renommée, déclarée meilleure chanson populaire en 1963. La suite de notre exploration de l'année 1963 dans le cinquième épisode.
Retrouvez On de la Traconte tous les jours sur Europe 1 et quand vous voulez sur Europe 1.fr, l'appli Europe 1, vos réseaux sociaux et vos plateformes d'écoute.